Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, vous allez également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. L'herbisivant, comme tous les jours, nous allons vous présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. Le jeune ambassadeur de l'ASEAN Indonésie et l'agent de la paix et la tolérance de la jeune génération. L'Indonésie encourage la solution du conflit de la mer de Chine méridionale. Le groupe de danse de Kencana Pradipta de la faculté psychologie de l'Université d'Indonésie est prêt de faire la performance au championnat mondial de folklore 2017 en Bulgarie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le processus de sélection de jeunes ambassadeurs de l'ASEAN d'Indonésie au ministère indonésien des Affaires étrangères a été commencé et maintenant dans l'étape de quarantaine jusqu'aux élections le 29 août 2017. Jusqu'à présent, on a choisi 50 jeunes en provenance de 30 provinces en Indonésie, sans Gorontalo, Sulawesi Central, les Moluques du Nord et Kalimantan du Nord. Des 50 jeunes, on va choisir 2 personnes qui seront couronnées comme les jeunes ambassadeurs d'ASEAN d'Indonésie 2017. Cela a été dit par le directeur général de la coopération de l'ASEAN, M. José Tavares, à Jakarta récemment. En quarantaine, ils ont de diverses sources, notamment la connaissance sur l'ASEAN et la gestion de leadership. Ils seront des agents de paix et de tolérance parmi les jeunes générations. Ils sont la première étape que nous choisirons parce que nous savons qu'il y aura diverses activités entre l'ASEAN et les pays partenaires. Ils impliqueront et nous espérons qu'ils deviennent les motivateurs pour les jeunes, comme par exemple pour la tolérance de notre État et la paix. Selon M. José Tavares, après l'élection, les 2 jeunes ambassadeurs de l'ASEAN en Indonésie détiennent une grande responsabilité qui peut traduire les choses qui concernent l'ASEAN pour la région. L'Indonésie est le premier pays membre de l'ASEAN à tenir l'élection des jeunes ambassadeurs de l'ASEAN. Le conflit de la mer de Chine méridionale qui poursuivit encore, bien qu'un certain nombre de pays, y compris l'Indonésie, aient tenté de faciliter pour ce problème, soit surmonté immédiatement. Mais le Vietnam et la République populaire de Chine insistent pour revendiquer ce territoire. Le ministre coordinateur indonésien pour les affaires politiques, juridiques et sécurité, le général retraité Wiranto, en marge du 3e symposium international de la sécurité maritime à Nusa Dua, Bali, a affirmé que l'Indonésie avait déjà son propre engagement sur le conflit de la mer de Chine méridionale. L'Indonésie soutient la création de la solution pacifique entre les pays contestés.
Kalau kawasan Cina itu kan Indonesia sudah punya stand ya. Saya kan baru saja juga dari
L'Indonésie a déjà une position dans la mer de Chine méridionale. Zhejiang Zhuxdexin parle de la mer de Chine méridionale. L'Indonésie est en mesure d'exhorter la solution de la mer de Chine méridionale. Les pays concernés sont réglés pacifiquement et il ne devrait pas y avoir d'une exposition de force qui pourrait conduire à un conflit plus net. Selon M. Wiranto, la République populaire de Chine a accepté de renouveler le code de conduite pour résoudre la crise des relations diplomatiques dans la région de la mer de Chine méridionale. Il a déclaré que la Chine a également convenu avec les pays en conflit de renouveler le code de conduite sur la façon de régler la mer de Chine méridionale de manière pacifique. Le groupe de danse de Kencana Pradipta, se composant d'étudiants de la faculté de psychologie de l'Université d'Indonésie, effectuera 4 danses traditionnelles de Nusantara dans le Championnat mondial de folklore 2017 à Nesebar, station balnéaire, Bourgan, Pomori, Saint-Flas, Bulgarie. Cela a été déclaré par le chef de l'équipe de la mission culturelle du groupe de la danse de Kencana Pradipta, Finda, lors d'une interview spéciale avec la voix de l'Indonésie récemment à Jakarta. Nous avons adhéré à cette compétition depuis le 18 août 2017. Il a débuté le 18 août et la finale sera le 26 août. Et maintenant, pour notre catégorie, nous avons une médaille d'or pour la catégorie de la musique instrumentale traditionnelle et la catégorie d'ensemble. Les deux médailles d'or que nous avons gagnées, dont maintenant nous pratiquons encore pour la finale, pour le championnat du Grand Prix. Selon Vinda, le groupe de la danse de Kencana Pradipta dans cette compétition présente une variété de danses et de musique de différentes régions d'Indonésie. Entre autres, la danse de Samandache et la danse de Papeda de la Papouasie. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'association des pays producteurs de pétrole de palme, qui comprend actuellement l'Indonésie et la Malaisie, invitera 7 autres pays à se joindre. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, dans sa déclaration officielle à Jakarta, a déclaré que sa partie les a également invités à participer à la discussion du groupe de force, ou FGD, qui se tiendra dans un proche avenir à Bali. L'entrée de ce pays pourrait avoir un impact positif pour le produit mondial de l'huile de palme brute de CPO. Le ministre de l'Industrie des plantations et des produits de la Malaisie, Datuk Sri Mah Siu Kiong, a déclaré que les pays producteurs de l'huile de palme doivent renforcer mutuellement les alliances dans les efforts de lutter contre les campagnes négatives et les barrières commerciales qui menacent ces produits. Il a déclaré que les deux pays produisent 85% du CPO total et ont rempli 91,2% de marché d'exportation dans le monde, de sorte que l'Indonésie et la Malaisie sont les acteurs majeurs mondiaux de l'industrie de l'huile de palme. Selon Datuk Sri Mah Siu Kiong, l'Indonésie et la Malaisie mettront l'accent sur l'importance de CPOPC pour le développement, la promotion et le renforcement de la coopération dans le secteur de l'industrie de l'huile de palme. Un membre de la Commission 1 du Parlement de l'Indonésie, M. Andreas Hugo Pereira, a apprécié la percée de l'ambassadeur d'Indonésie en Ukraine, M. Yudi Krisnandi, pour promouvoir la culture indonésienne à l'étranger. Andreas Hugo Pereira a apprécié les efforts faits par l'ambassadeur Yudi Krisnandi en construisant une miniature de l'Indonésie en ville de Kiev. Et auparavant, la délégation de la Commission 1 a fait une visite de travail en Ukraine et d'autres pays, conformément aux tâches principales et les devoirs de la Commission en partenariat avec les représentants des ambassades d'Indonésie à l'étranger. La priorité de la visite de travail cette fois-ci est de visiter les pays où l'intensité de ses relations avec l'Indonésie est faible en tant que pays stratégique. En Ukraine, les législateurs ont vu la percée de l'ambassadeur en Ukraine, Yudi Krishnandi, qui sert également l'ambassadeur en Géorgie et en Arménie. Yudi Krishnandi construit une miniature de l'Indonésie en ville de Kiev pour promouvoir et introduire la culture indonésienne. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Itu berita sekarang continuity.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Le premier, l'éditorial du journal Média Indonésia, le 22 août, a pour titre « Rester concentré sur l'infrastructure ». La Constitution exige que le budget de l'État, des recettes et des dépenses, soit APBN, établi annuellement par la loi, soit mis en œuvre ouvertement et soit responsable du bien-être public. APBN est essentiellement un instrument fiscal utilisé par l'État pour réaliser les idéaux de l'indépendance, à savoir créer une Indonésie indépendante, unie, souveraine, juste et prospère. Dans cette perspective, le public devrait surveiller de près la discussion du projet de budget de 2018 proposé par le président Joko Widodo à la Chambre des représentants. Le contrôle public est très important car il s'agit d'un volume très important du projet de budget de l'État, soit RAPBN, qui atteint 2204 trillions roupias. Selon Média Indonésia, si le budget de l'État et le budget régional, soit APBD, se synergient pour les dépenses de développement, sans aucun doute, les roues économiques battent au coin du pays. La discussion sur le projet de budget de l'État 2018 devrait constituer un élan pour modifier le paradigme budgétaire qui a été conçu pour être productif et l'infrastructure demeure une priorité. Ensuite, l'éditorial du journal Sindo, le 23 août, a pour titre « Le transport en masse doit être intégré ». Après que les véhicules à deux roues ne soient pas autorisés à passer par la roue MH Tamrin Jakarta, le gouvernement provincial de Jakarta appliquera le même règlement dans la rue Jenderal Sudirman et la rue Rasuna Said. La politique a été prise compte tenu des goulets d'étranglement de plus en plus graves dans de nombreuses rues de la capitale, en particulier sur les routes principales de Jakarta. Cette politique prendra effet le 11 octobre 2017. En outre, une congestion sévère que plusieurs mois se produit souvent à Jakarta a également causé par plusieurs projets tels que le MRT, le LRT et le passage souterrain où le survol se font simultanément. Certains projets sont en effet pour répondre à l'une des causes de la congestion à Jakarta. Selon le journal Sindo, ce n'est pas un travail facile de changer la culture de l'utilisation de véhicules privés vers le transport en masse. Il y a toujours un ego chez les citoyens que l'utilisation de véhicules privés, en particulier de voitures, est considérée comme plus civilisée. Certaines parties devraient pouvoir s'associer pour discuter de l'intégration du transport en masse. Cette intégration est nécessaire car elle augmente la commodité et attire les utilisateurs de véhicules privés à se déplacer en utilisant le transport en masse. En outre, bientôt, des types de modes de transport de masse, à savoir MRT et LRT, accompagneront la ligne de banlieue et Trans-Jakarta. Le dernier, l'éditorial du journal Republica a écrit sur le potentiel de Zakat. Le rôle de Zakat est de plus en plus important, en particulier en ce qui concerne l'atténuation de la pauvreté. Le ministre des Finances, Sri Mulyani, l'a mentionné lors de la deuxième conférence annuelle sur les finances islamiques à Yogyakarta le 23 août. Le ministre Sri Mulyani a déclaré que le potentiel de la Zakat en Indonésie était 217 trillions rupiah. Malheureusement, on ne peut recueillir que 2%, car il y a encore beaucoup de gens qui ne paient pas Zakat à Basnas ou à d'autres institutions de Zakat. Par conséquent, si Basnas et les autres institutions de Zakat s'assemblent pour se compléter dans l'effort de canalisation des fonds de Zakat afin d'atténuer davantage la pauvreté. Selon le journal Republica, le gouvernement central pourrait être impliqué dans la cartographie. Par conséquent, le gouvernement dispose de données complètes sur les cartes de la pauvreté qui peuvent être ciblées sur la Zakat. Ainsi, les programmes et les institutions de Zakat, à la fois une compensation et une aide productive, peuvent fonctionner bien. Cher ami, c'était la revue de presse.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui qui informe une variété d'événements historiques. Nous commençons l'histoire aujourd'hui avec la journée de l'égalité de la femme. La journée de l'égalité des femmes a été commémorée pour la première fois le 26 août 1920. Elle est célèbre lorsque pour la première fois la Constitution des États-Unis permet aux hommes de voter pour les candidates féminines. Les femmes luttent pour l'égalité des droits et des traitements aux États-Unis. La journée de l'égalité de la femme est célébrée chaque année pour commémorer l'octroi du vote aux femmes de leur accession au droit de vote à l'échelon fédéral. En effet, les femmes américaines obtiennent ce droit le 26 août 1920 lorsque le 19e amendement de la Constitution a été ratifié. Il entre en vigueur 2 heures plus tard. Ce mouvement ne se développe pas seulement aux États-Unis, mais encourage également les femmes du monde entier à lutter et à revendiquer des droits, y compris l'égalité, dans les communautés de leur pays. D'autres informations et le 7e jour national qui ont tenu à Surabaya. Le 7e jour national a eu lieu à Surabaya Java East du 26 août au 6 septembre 1969. Le président de l'organisation de l'époque a été Acup Zainal. En fait, le 7e jour national a tenu à Banjarmasin, Kalimantan Sud. sur la base de la séance du Comité national des sports indonésiens, ou CONI, de 26 à 29 février 1968. Cependant, sur la base de la réunion du Comité des sports en février 1968, le Kalimantan du Sud n'est pas prêt à organiser le 7e PON. Avec diverses considérations entre CONI et la Direction générale des sports, le choix a finalement été donné à Surabaya. C'est solide auditif, c'était notre histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition 26 août 2017. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en peut-être la 6e rencontre de dialogue entre l'Indonésie et la Chine. Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité de la République d'Indonésie et le Conseil d'État de la République populaire de Chine ont tenu le 6e dialogue bilatéral du 21 au 22 août 2017 à Pékin. Lors de sa rencontre avec le Conseil d'État de la République populaire de Chine, Yang Jiechi, le ministre politique, juridique et de sécurité Wiranto a déclaré que la coopération bilatérale mutuellement bénéfique entre l'Indonésie et la Chine a progressivement augmenté depuis la signature du partenariat stratégique global en 2013. En citant le site web de l'ambassade d'Indonésie à Pékin, le mécanisme de dialogue au niveau de ministres coordinateurs et vice-premiers ministres et la réunion annuelle pour encourager le développement de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de la défense, du droit et de la sécurité. La 6e réunion se poursuit à la réunion précédente à Beijing du 26 au 27 avril 2016. Les deux pays manifestent leur engagement à renforcer les relations entre la République d'Indonésie et la République populaire de Chine. Diverses questions bilatérales ont été discutées et convenues pour une action immédiate, y compris la cybersécurité, le renforcement de la lutte contre le terrorisme, le renforcement de l'application de la loi et la coopération transnationale contre le crime et le renforcement de la coopération maritime. L'Indonésie et la Chine ont convenu d'accroître la coopération en matière de l'application de droit et de justice, en particulier dans les domaines de la drogue, de la corruption, de l'extradition de l'acteur de corruption et du recouvrement d'actifs, de la cybersécurité, de la gestion de l'entrée et de la sortie, le renforcement de la capacité de l'application de la loi et de l'échange de soutien en matière d'enquête judiciaire, d'enquête, d'arrestation et de rapatriement de suspects. L'Indonésie souligne l'importance de la coopération policière entre l'Indonésie et les pays amicaux, y compris la RPC, par le biais de mécanismes bilatéraux en régional de l'ASEANPOL et de la réunion ministérielle de l'ASEAN sur la criminalité transnationale, où il existe du mécanisme ASEAN plus 3, y compris la République populaire de Chine. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'Indonésie a soumis au gouvernement de la République populaire de Chine une proposition visant à renforcer la coopération en matière d'échange de données et d'informations relatives au terrorisme et à la déradicalisation, à empêcher l'écoulement des fonds terroristes et à éliminer les actes terroristes par le biais de la technologie cybernétique. L'Indonésie a également invité la République populaire de Chine à explorer et à participer au programme du Centre de radicalisation récemment lancée par l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme. Alors que dans le domaine de cybersécurité, l'Indonésie espère que la République populaire de Chine peut partager ses expériences et apporter son soutien à la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité et la protection. En outre, l'Indonésie s'est engagée à mener à bien un mémorandum d'accord sur la coopération dans le développement de la capacité, de la technologie et du travail en commun de la cybersécurité. Les deux délégations ont également convenu de renforcer l'alignement entre la vision de l'axe maritime mondial lancé par l'Indonésie avec l'initiative de la soie maritime du 21e siècle initiée par la Chine. Les réunions ont abouti à un registre des lignes directrices communes pour le développement de la future coopération bilatérale politique, juridique et de sécurité. Les deux délégations ont également convenu de la nécessité de tenir la 7e réunion en Indonésie l'année prochaine. Au cours de la réunion, Wiranto a été accompagné du ministre de communication et de l'informatique Rudiantara, ainsi que d'un membre de la délégation composée de plusieurs fonctionnaires du ministère de la coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, du ministère coordinateur des affaires maritimes, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense et des fonctionnaires des ministères et organismes concernés. Chers amis, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Pour nous vous présentons un plat de Pekalongan nommé Sego Megono. Alors soyez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, le service mondial de RRI. Vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id. La ville de Pekalongan, qui est située dans la province de Java Central, est non seulement bien connue pour son batik, mais aussi pour sa gastronomie. L'un des plats typiques de Pekalongan qui est célébré pour son goût délicieux est le sego megono. Sego signifie nasi ou en français le riz. Donc sego megono signifie le riz megono. Si vous visitez Pekalongan, vous ne serez pas totalement satisfait si vous ne goûtez cette préparation. Le produit de base végétale de ce plat est de jeunes fruits de jacquier qui est haché finement, auquel on ajoute les ingrédients typiques de Urap, c'est la salade de légumes cuits, épicés et savoureux. D'habitude, lorsque vous mangez le sego megono, on lui ajoutera le condiment de taojo, terik tempeh, c'est le petit poisson et les morceaux de tempeh qui sont cuits avec le lait de noix de coco, et ensuite le tempeh mendoan, à savoir transfine de tempeh frites enveloppées dans la farine et du poulet frit. Lorsque vous dégustez du sego megono, n'oubliez pas de commandez du thé noir qui est servi dans un pot en argile dans lequel vous ajoutez des coupes de sucre comme édulcorant. Ce sego megono est vendu à un prix relativement bon marché. le prix d'une portion de riz magono est de 3500 jusqu'à 4500 rupiah. Le prix qui n'inclut pas le tempeh mandouan et le poulet frit, tandis que le thé noir avec des coupes de sucre, environ 4000 rupiah. Les gens mangent habituellement le riz magono le matin comme petit déjeuner. Et d'habitude, le second magono n'est pas servi sur une assiette, mais sur pinchuk ou une assiette à base de feuilles de bananier. En accord avec le développement du tempeh, les gens de Pekalongan combinent souvent le second magono avec du poisson ou bien de la viande, de sorte que le second magono est plus délicieux et nutritif. Le riz de magono est devenu un héritage et très facile à trouver dans tous les coins de Pekalongan, notamment dans les régions de Batang ou dans celles de Pemalang, parce que le long de la route, vous trouverez facilement les étals qui vendent le riz magono. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Le riz magono ou Sego magono, un plat typique de Pekalongan. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs, informant sur l'exposition de papier en bois d'Aluang. Donc, restez toujours avec nous, le Service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Daluang ou Deluang est une feuille mince en écorce de Deluang, soit Brussonetia papyrifera, utilisée pour écrire quelque chose, comme le papier. Certains manuscrits anciens de l'archipel utilisent le Daluang comme moyen d'écriture, alors que les papiers modernes n'ont pas été introduits. Le papier Daluang avait utilisé pour écrire les manuscrits anciens des royaumes de l'archipel, écrire Al-Quran à l'école coranique et les matières premières de marionnettes. Le chercheur néerlandais K. Heyn, dans son livre Les plantes utiles d'Indonésie, a déclaré que l'écorce de Daluang est également utile comme vêtement. De l'écorce d'un arbre délirant, on a également fabriqué des vêtements portés par le groupe ethnique polynésien. Ces vêtements d'écorce sont connus sous le nom de kain tapa. Le tissu est composé d'écorce battante avec une chauve-souris en bois ou des pierres. Le développement de la technologie qui présente le papier comme moyen d'écriture et le coton comme matière première de textile rendant Daluang oublié et abandonné, alors que Daluang est l'un des héritages culturels uniques de l'Indonésie et doit être protégé. Il faut donc l'utiliser à nouveau et se développer afin de ne pas s'éteindre. Par conséquent, le gouvernement provincial de Java West, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme et de la Culture, a tenu une exposition de papier de bois d'Aluang. Trésor cassé, d'Aluang, Puya et Tapa. L'exposition vise à introduire le patrimoine culturel de cet archipel, en particulier pour les jeunes générations. L'exposition du papier en bois d'Aluang a lieu du 24 août au 13 septembre 2017 à la musée Sri Baduga à la ville Bandung, Jawa West. L'exposition a soulevé le patrimoine culturel immatériel d'Aluang où le papier saeh qui était utilisé comme moyen d'écriture et de dessin. Les objets présentés cette fois viennent de diverses régions en Indonésie, dans plusieurs pays du monde, qui ont la même culture dans l'utilisation de l'écorce, comme la Thaïlande, le Mexique, ainsi que plusieurs autres pays d'Amérique latine. Les collections exposées se composent de manuscrits anciens, dessins, vêtements, teintures murales, accessoires, utiles de fabrication de dalang et anciens corans produits autour du XVIIe siècle. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, on écoutera les chansons chantées par le groupe de Max Havelaar. Voici la première chanson intitulée Suara Kita, Suara Tuhan, ou Notre Voix, La Voix de Dieu. Bonne écoute.
Mengapa aku tak terdengar?
Voilà une chanson de Marsa Flahar dont le titre est Sorakita Soratouhan ou Notre Voix, la Voix de Dieu. En général, le nom de Marsa Flahar est connu par les Indonésiens comme le titre d'un roman de Multatuli alias Edward Dawes Decker qui a été publié en 1860. Ce titre de roman qui raconte la souffrance des peuples indonésiens pendant la période coloniale est devenu le nom d'un groupe qui est formé à Jakarta en 2010. Les membres de Marsa Flahar sont Dedi Dud, chanteur et guitariste, Asra, pianiste et clavieriste, David Key, guitariste, Teddy Satrio, bassiste et Timur Segara, batteur. Bien qu'elle ait été créée en 2010, Marsa Flahar n'a pas envie de se précipiter pour sortir leur œuvre. Non seulement en raison de la qualité du travail et de la satisfaction personnelle, mais les retards dans la réalisation des œuvres ont été causés par le personnel de Marsa Flahar qui était encore occupé et actif avec le groupe respectif. Mais enfin, une chanson intitulée « Sorakita Soratoa » a été publiée en 2012. 14 ans plus tard, précisément en janvier 2016, Marsa Flahar a publié son deuxième single intitulé « Tumaritis ». Chers auditeurs, avant de parler plus, écoutons une deuxième chanson de Marsa Flahar dont le titre est « Tumaritis ». Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, vous restez toujours avec nous dans la rubrique musicale Pelanginada de la voix d'Indonesia Jakarta. Voilà la chanson de Mas Avelar intitulée Tumaritis. Mas Avelar a essayé de critiquer l'État par les œuvres. Les variations de thèmes sont présentées dans chaque chanson, comme le thème politique de la chanson intitulée Suara Kita, Suara Tuhan, et le thème qui parle de la difficulté de coexistence dans la chanson intitulée Tumaritis. Il n'est pas seulement les différents thèmes, chaque chanson de Mas Avelar a également son propre style. Comme par exemple, dans son premier album intitulé Mas Avelar, qui a été publié en février 2016, il y a la nuance de rock dans la chanson intitulée Tumaritis, la nuance d'orchestre dans la chanson intitulée Manusia Pemberani et la nuance de pop dans la chanson intitulée Jazz Merah. Bien qu'elle porte de la rock moderne, Mas Avelar ne veut pas limiter la couleur de la musique qui sera faite. Selon Asra, chaque membre de Mas Avelar a des préférences musicales différentes. Alors c'est pourquoi il y a beaucoup de genres de musique qui est porté par Mas Avelar. Mais Mas Avelar reste compact grâce à leur même amour pour la musique. Ses amis, voilà l'édition de Pelanginada aujourd'hui. Pour finir notre rencontre aujourd'hui, on écoutera une chanson intitulée Jazz Merah ou Veste Rouge. Bonne écoute et à demain.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.